Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, dans l'Aisne, l'Oise, la Somme et graphite.net, bien sûr, en direct ou en différé grâce au podcast et peut-être aussi parce que vous êtes en train d'écouter la rediffusion de cette émission le mardi matin. Mais nous sommes bien le samedi 8 octobre, c'est Jean-Noël à l'antenne, Jean-Noël accompagné de Carole aujourd'hui. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Ça s'est bien passé fin de mois de septembre qui était assez intense pour toi. Tu n'avais pas eu le temps de revenir à l'antenne et tu reviens là le 8 octobre,
oui.
Fraîche, détendue.
Exactement, ouais, tout s'est très bien passé. Je suis ravie d'être de retour à l'antenne.
C'est formidable que nous sommes très heureux de te revoir à l'antenne. Nous sommes donc ce 8 octobre, samedi, c'est déjà le début de la fête de la science. On en parlera en fin d'émission parce que nous aurons une émission spéciale, comme tous les ans, depuis plusieurs années maintenant, la semaine prochaine. 8 octobre, eh bien, au niveau de l'éphéméride, il ne s'est rien passé au niveau sciences et techniques un 8 octobre, mais il y a eu la naissance en 1901 de Mark Lawrence Oliphant, physicien et humanitaire australien, j'aime bien associer les deux. Il joua un rôle fondamental dans le développement de la bombe atomique. Alors, il vise d'abord une carrière en médecine. Il commence ses études à l'université d'Adélaïde, en Australie, en 1919. Mais son professeur de physique le persuade de devenir physicien en lui montrant, je cite, « la griserie extraordinaire que l'on trouve dans des découvertes même mineures dans le domaine de la physique ». C'est vrai que au début du XXe siècle, au niveau physique, il y avait quand même pas mal de belles découvertes à avoir. Et en 1925, il assiste à un exposé du physicien Ernest Rutherford et il décide sur le champ qu'il va travailler avec lui. Ça se fait comme ça. Et il satisfait cette ambition en 1927 en trouvant une place au laboratoire Cavendish. Nous sommes à l'université de Cambridge et à l'époque, c'est le laboratoire le plus avancé au monde en recherche en physique nucléaire. Et la contribution donc de Mark Lawrence Oliphant et sa découverte de l'hélium-3 et du tritium. Il est également le premier à découvrir que les noyaux des isotopes lourds de l'hydrogène peuvent être amenés à réagir ensemble. Et en fait, tout ça, c'est une réaction de fusion qui est la base de la bombe H. Alors, il explique « Nous n'avions pas la moindre idée de que ceci pourrait être appliqué un jour pour faire des bombes H. » En fait, il n'a découvert que la réaction. Et notre curiosité était simplement de la curiosité à propos de la structure du noyau atomique. Et la découverte de ces réactions était une pure coïncidence. Et plus tard, nous sommes en 1943, Oliphant, il va travailler sur le projet Manhattan au sein de la délégation britannique. Il préfère se concentrer sur les processus d'enrichissement de l'uranium-235, qui est une partie vitale, mais qui est moins ouvertement militaire dans le cadre de ce projet. Il va revenir en Angleterre en 1945. Il va reprendre son poste de professeur de physique à l'université de Birmingham. Et c'est là, en 1945, qu'il apprend l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima. Et il remarquera plus tard qu'il s'est senti en quelque sorte fier que la bombe ait marché, mais absolument terrifié par ce qu'elle avait fait à des êtres humains. Et il devient rude, il devient critique vis-à-vis des armes nucléaires. Il dit « Dès le début, je me suis fait des soucis terribles au sujet de l'existence des armes nucléaires et j'ai pris tout à fait parti contre leur usage ». Et donc du coup, voilà, c'est quand même un parcours assez ambigu, on va dire, et qu'il a découvert quelque chose qui peut-être il regrette par la suite. Il est mort en 2000, il avait 98 ans. C'était Mark Lawrence Oliphant. Le décès de George Emil Palade, c'était le 8 octobre 2008. C'était un savant roumain, et on ne parle pas souvent de la Roumanie dans cette émission. Il a été ensuite naturalisé américain. Il a remporté le prix Nobel de médecine en 1974 pour ses travaux sur le ribosome. Ce prix Nobel a été partagé. Il est considéré, George Emil Palade, comme un pionnier de la biologie cellulaire. Il était féru d'histoire romaine et ses connaissances en latin, justement, qu'il maîtrisait très bien, ça lui était très utile pour créer des nouveaux termes en biologie cellulaire. C'est vrai qu'on utilise pas mal la langue latine en biologie cellulaire. Voilà, le décès de George Emil Palade le 8 octobre 2008. Voilà, c'était l'éphéméride de ce 8 octobre. Carole, à toi de prendre le micro et à toi de nous raconter c'est des belles histoires.
Et donc, pour justement partir sur un sujet un peu plus joyeux, mettre, j'allais dire, une bonne ambiance, une bonne énergie dans cette émission, eh bien, je vais partager avec vous donc un article publié en septembre dans Science et Avenir et qui nous parle en fait de la mastication au travers d'une expérience, d'une étude qui est somme toute insolite, hein, je vous laisserai en juger, où en fait des chercheurs ont chiffré l'énergie dépensée lors de la mastication et ils en ont déduit sa probable implication dans l'évolution de la mâchoire des hominoïdes. Alors, l'étude, elle a quand même été publiée dans la très sérieuse revue Science, et c'est la première, en fait, à poser un chiffre sur les calories que nous brûlons à la mastication. Celle-ci représenterait 1% de la dépense d'énergie, donc totale. Hein. Le premier auteur de l'étude, Adam Van Kasteren, nous explique donc « Nos résultats indiquent que le régime alimentaire mou de l'homme moderne pourrait nous faire économiser de l'énergie lors de la mastication par rapport au régime alimentaire plus difficile à mâcher de nos parents les plus proches. On peut donc facilement imaginer que le coût énergétique de la mastication était bien plus élevé chez nos ancêtres. » On pense notamment donc à Australopithecus, qui est un hominidé ayant vécu entre 1 et 4 millions d'années en arrière et qui possédait des dents 4 fois plus larges que l'homme moderne, ainsi que des muscles masticateurs bien plus développés. Alors, quelle est cette expérience quelque peu insolite qui a été mise en place ? Eh bien, pour mener cette étude à bien, les chercheurs ont demandé à 21 volontaires de mâcher du chewing-gum, mais un chewing-gum particulier, en fait, c'est-à-dire inodore et insipide. Alors, pourquoi insipide ? Eh bien, parce que le goût, en fait, aurait déclenché la digestion. Et dans ce cas, ça aurait faussé les résultats, puisque la digestion, elle nous fait dépenser de l'énergie. Donc, et beaucoup plus d'ailleurs, hein, oui, que la mastication, ça, il le précise bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on disait aux participants pendant 15 minutes de mâcher consciencieusement le fameux chewing-gum, donc insipide, inodore, la tête enfermée dans une bulle de plexiglas pour que soit mesuré leur rejet de CO2 et leur consommation d'oxygène. Et alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'en mâchant un chewing-gum tendre, les sujets ont augmenté leurs dépenses énergétiques de 10,2% en moyenne par rapport à leur métabolisme de base et de 15,1%, c'est précis, pour un chewing-gum plus rigide. Donc en plus, il y a visiblement eu différents tests, différents types de chewing-gum. Les scientifiques ont ensuite reporté leurs résultats sur la dépense énergétique quotidienne et obtenu une moyenne de 1% consacrée à la mastication. Donc, quand même, hein, c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est quand même plus faible.
Oui, je trouve que c'est assez... C'est important, mine de rien.
Oui, 1%. Et alors, nous mâchons en moyenne, maintenant, à l'heure actuelle, 35 minutes par jour, ce qui est bien moins que les grands singes qui peuvent s'y adonner 6 heures durant.
Oh là là.
C'est impressionnant. Donc, oui. Ça, c'est chez le singe, les grands singes. Et donc, on imagine que nos ancêtres y passaient plus de temps et surtout que ça leur demandait une dépense énergétique plus importante puisque, c'est comme on l'a dit, il fallait mâcher plus et puis surtout, donc, les muscles étaient plus développés, les dents plus larges, puisqu'évidemment, ils mangeaient des choses beaucoup moins molles que nous. Donc, si nous y accordions le même temps, donc le même temps que les grands singes, hein, nous dépenserions 3% de notre énergie quotidienne à mastiquer. Donc, pour la prochaine dégustation de fondant au chocolat, bien, pensez à bien mâcher et vous perdrez des kilos. Bonne technique, c'est vrai que dans les régimes, c'est jamais proposé, mais au final,
non, mais
qui
c'est vrai,
y aurait
en fait,
pensé.
On nous a jamais donné cet argument.
Non, jamais, parce que c'est vrai qu'1%, ça reste faible, mais il fallait quand même y aller, il fallait se dire, on le quantifie, on donne le chiffre de cette dépense énergétique.
Bah, je trouve que c'est pas anodin, 1%.
Et oui.
J'aurais pas cru. Enfin, ok. Bon, bah très bien. Aucune transition. Je pense qu'en fait, ce sera l'émission sans transition.
Sans transition.
Il y a des moments où il y aura
très bien.
De transition. Dans cette émission, on parle régulièrement et depuis quelques années du Covid. Et on vous avait dit, d'ailleurs avec Carole à l'époque, on avait parlé du Covid en janvier 2020. Hein, fin janvier 2020,
oui.
C'est le premier moment où on parle du Covid dans cette émission. C'était quand même un mois et demi avant ce qui s'était passé en termes de confinement ou autre. Et on vous avait dit à l'époque, de toute façon, et on n'a pas arrêté de le répéter, les informations qui vont nous permettre de comprendre ce qu'il s'est passé, ces informations vont venir de la science, hein, pas des charlatans évidemment. Et la science, elle va prendre le temps pour pouvoir analyser et nous apporter des éléments. Et depuis la reprise de cette émission Biotine en septembre, on a... des études qui apparaissent de plus en plus et qui nous apportent des informations qui permettent de confirmer ou d'infirmer ce qui avait été dit à l'époque, qui étaient plutôt des suppositions à l'époque. Là, on ne connaît pas toujours avec certitude l'origine du Covid. Et parmi les animaux incriminés, les chauves-souris ont bien sûr mauvaise réputation parce qu'elles sont considérées comme des réservoirs d'agents pathogènes viraux, dont ce fameux virus, le SARS-CoV-2. C'est vrai que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Alors, il y a une méta-analyse qui a été réalisée par des chercheurs de l'université de Tel Aviv. Une méta-analyse, c'est quelque part une synthèse de plusieurs recherches. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant parce qu'on n'est pas uniquement sur les découvertes d'un laboratoire X, mais là on est sur une synthèse de plusieurs découvertes de plusieurs laboratoires. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez sérieux en termes de panel, d'échantillons ou autres qui ont été engagés dans cette étude. C'est l'université donc de Tel Aviv qui a mené cette méta-analyse et qui révèle de nombreux cas dans lesquels, selon eux, il n'existe pas suffisamment de preuves pour accuser justement les chauves-souris. Lorsque l'on examine l'interaction des chauves-souris avec les virus, le moment semble venu de changer de paradigme, c'est ce qu'ils écrivent dans cette étude qui est parue dans la revue Science. Tout d'abord, ils se sont demandé si les chauves-souris étaient effectivement des réservoirs de virus. Alors, un animal réservoir, il est défini comme une population dans laquelle le pathogène, donc là le virus, peut être maintenu de façon permanente et à partir de laquelle l'infection est transmise à la population cible. Même si plus de 100 virus associés aux chauves-souris ont été identifiés comme importants pour les infections humaines émergentes et réémergentes, eh bien les chercheurs estiment que les preuves manquent pour considérer ces animaux, les chauves-souris, comme réservoirs. Ils ont constaté que dans près de la moitié des cas, l'isolement de l'agent pathogène du virus de la chauve-souris n'avait même pas été réalisé. En outre, le simple isolement d'un virus ne suffirait pas à considérer un animal comme un réservoir, parce qu'il faudrait aussi qu'il existe une voie de transmission qui serait établie. Et donc, d'après cette étude, les chauves-souris ont un système immunitaire très efficace qui leur permet de mieux affronter une variété de virus mortels que les autres mammifères. Et cela fait 60 millions d'années que les chauves-souris ont évolué pour s'adapter justement à ce qu'on appelle le vol motorisé. De même, elles font face à des virus qui ont évolué sur des millions d'années et qui présentent une réponse modérée lors des processus inflammatoires. Ensuite, eh bien, ces chauves-souris, elles se rétablissent, elles restent immunisées en développant un niveau élevé d'anticorps, souvent sans devenir un réservoir, c'est ce qu'écrivent donc les auteurs. Et après l'immunité, leur risque de rechute au point de devenir contagieux est faible. Une dissémination d'agents pathogènes viraux ne peut se produire que si les chauves-souris hébergent le même virus pathogène pour l'homme. Cependant, il y a de nombreux virus portés par les chauves-souris qui ne peuvent pas infecter les humains sans avoir subi au préalable un processus naturel d'évolution, ce qui signifie en fait que les chauves-souris sont porteuses des virus ancestraux et non de l'agent pathogène humain. Alors, ça, c'est ce qui est indiqué dans leur étude. Il n'est pas à exclure, bien sûr, que les chauves-souris puissent avoir été porteuses d'un virus ancestral qui, à un moment donné, a pu muter en un agent pathogène pour l'humain, ça n'est pas à exclure, excusez-moi. Toutefois, les chercheurs israéliens concluent qu'à l'exception de quelques virus, eh bien, les chauves-souris présentent peu de dangers zoonotiques pour l'homme, c'est-à-dire peu de dangers de transmission de virus pathogènes pour l'homme. Et donc, au lieu de ça, ils s'attachent à montrer que les capacités immunologiques contre les virus qui sont uniques à ces chauves-souris, elles doivent être mieux étudiées parce que ça permettrait peut-être de combattre nos propres maladies, bien évidemment. Et ces animaux jouent également un rôle important dans l'extermination des insectes, la replantation des zones déboisées, la pollinisation d'un certain nombre de cultures. Donc arrêtons aussi d'avoir une discrimination contre ces chauves-souris. Mais là, une nouvelle étude qui nous annonce, en tout cas nous donne des éléments assez tangibles sur le fait que les chauves-souris ne seraient pas à l'origine du SARS-CoV-2, donc du coronavirus, selon donc cette étude israélienne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus on a des pierres qui viennent construire un édifice et qui vont nous permettre de nous raconter l'histoire. Mais enfin, ça s'est passé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Attendons.
Et c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, hein, c'est qu'on ne sait pas dans combien de temps est-ce qu'on connaîtra en fait l'histoire, j'allais dire en entier, avec vraiment tout ce qui s'est passé Et là, en effet, ça élimine une piste, mais du coup, on s'interroge d'autant plus sur certainement l'animal par lequel la transmission a pu avoir lieu.
Oui, parce que dans l'émission de rentrée de Biotine, on avait parlé de cette étude, je crois que c'était dans Nature, si je ne dis pas de bêtises, qui évoquait, enfin qui précisait bien que cette épidémie est bien partie de ce fameux marché de Wuhan.
Tout à fait.
Donc voilà, et qu'on n'était pas dans la piste du laboratoire qui a été pendant très longtemps évoqué. Pour l'instant, voilà, on est plutôt sur la piste du marché. Mais donc voilà, les informations arrivent au fur et à mesure. Mais ça fait que 2 ans. Et de toute façon, il faut du temps pour avoir tous les éléments parce qu'on est quand même sur une simulation qui va pas se faire, qui doit se faire sur une durée qui semble totalement légitime et évidente à comprendre. Après, il est certain aussi, alors on n'en parle pas encore énormément, mais les articles, je vous l'ai dit, viendront sur les conséquences de notamment de cette période de confinement. On commence à voir quelques articles sur le comportement, sur les jeunes, sur sur les effets au niveau psychique de ce qu'a pu être, comment a pu être supporté cette période de confinement. Là, on aura des études qui vont nous permettre de voir comment la pédagogie a été mise en place, comment les relations sociales. On voit très bien que ça commence, il y a quelques articles qui commencent à apparaître et on l'évoquera bien sûr dans cette émission. Le Covid, on va encore en parler pendant un bon bout de temps dans cette émission. C'est évident, tellement c'est un cas concret, un cas d'école qui nous permet en fait d'illustrer ce que l'on dit depuis plusieurs années dans cette émission. Il faut prendre le temps et la science nous donnera les réponses.
Oui, tout à fait. On le répète.
Quand je dis ça d'une façon.
Oui, parce que tu le répètes extrêmement souvent. Et
je le répète extrêmement souvent parce que je suis toujours très frustré par le fait qu'on ne dise pas ça dans les grands médias.
Ben oui, parce qu'on veut l'information tout de suite et il faut se nourrir de quelque chose dans l'instant alors que c'est des choses qui prennent du temps et pour lesquelles il faut de la patience. Il faut laisser la recherche en fait faire son œuvre.
Oui, parce qu'on, comment dire, on suscite chez le consommateur, donc en clair le téléspectateur, le public, on suscite une envie de le gaver de quelque chose. Donc le public, il attend une information, il entend des choses. Donc on va lui donner pour qu'il soit satisfait. Mais c'est comme si on lui donnait des pauvres croquettes dégueulasses. Non, ce n'est pas comme ça qu'on nourrit. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Alors, j'ai toujours pas vu, mais bon, j'ai pas non plus regardé en détail, mais j'attends de voir aussi une analyse, un bouquin qui sorte sur cette période d'un point de vue traitement médiatique et notamment en termes de traitement de vulgarisation scientifique.
Je pense qu'il faudra attendre aussi, mais ça sera très intéressant.
Écoute, si ce bouquin n'existe pas, je veux bien me lancer. Hein.
Peut-être, voilà.
Je veux voir ça. Enfin, c'est tellement fascinant de voir cette période. Et donc, du coup, ben voilà, régulièrement dans cette émission, on reviendra sur des études, j'allais dire sérieuses. C'est pas que certains ne le sont pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais on a tellement eu des difficultés à essayer de convaincre et que là, on est obligé d'apporter des arguments quand même qui puissent être assez solides. Et là, quand il y a une étude qui porte sur plusieurs, enfin une méta-analyse, donc c'est quand même sur quelque chose d'assez conséquent en termes de volumétrie de données qui ont été étudiées et que c'est paru dans Nature, c'est quand même beaucoup mieux qu'un simple médecin lambda qui s'exprime sur CNews. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a un moment où il faut avoir une certaine échelle de crédibilité, on va dire, ou de légitimité, je ne sais pas quel est le bon terme. Voilà, j'ai fini, Carole, mon grand speech sur ce domaine-là.
Et c'était important de le faire, mais justement, j'ai peut-être la seule transition, avant peut-être une musique pour nous détendre, mais pour l'instant, une transition justement sur un sujet finalement dont on entend aussi beaucoup parler ces dernières années, donc tout comme le Covid, eh bien, il s'agit du réchauffement climatique et du réchauffement climatique.
Je sais pas ce que c'est.
Et de tous les impacts et de tout ce qui pourrait se passer, ce qui devrait se passer, ce dont on devient de plus en plus sûr qu'il va se passer, voilà. Alors j'aime bien souvent parler de fonte des glaces, je sais pas si tu l'avais remarqué, parce qu'il y a souvent eu des sujets là-dessus dans les Alpes, je ne sais plus aussi où j'avais relaté ça.
Je sais pas, tu nous fais voyager.
Exactement, mais alors cette fois-ci on part au Groenland, pour justement observer la fonte des glaces. C'est un article relayé donc dans Futura Science, puisqu'on le sait, on en parle tout le temps, mais la glace du Groenland fond. Et donc, elle continue de le faire. Et à chaque fois, quand ça se passe, déjà, c'est au cours de l'été. Mais, eh bien, de mémoire de scientifique, hein, qui, bien sûr, la surveille, cette glace, depuis la fin des années 70, c'est pas si ancien, mais maintenant, on y prête attention, eh bien, elle n'avait jamais fondu autant, aussi tardivement dans l'année. Donc, chaque été, la glace du Groenland, bien sûr, fond, et ça, ce n'est pas anormal au départ. Hein. Et en la matière, eh bien, notre été 2022 se positionnait jusqu'alors presque dans la moyenne. Alors, c'est vrai que vu les chaleurs, nous, qu'on a expérimentées, on peut se dire, ah bon, on est dans la moyenne, mais évidemment, là, on regarde le phénomène au niveau, du coup, de la planète. Mais c'est jusqu'alors, parce que pour la première fois en près de 45 ans de surveillance satellite, les chercheurs ont observé un épisode de fonte massif au début du mois de septembre, en fait. Et donc au plus fort, hein, c'était le 3 septembre 2022, et bien plus d'un tiers de la calotte glaciaire, donc ça correspond à 36% exactement, alors que la fonte se limite classiquement à 10% à cette période de l'année, et bien a fondu en surface, donc ça correspond à 600 000 km² quand même. Pour quand même qu'on se rende compte. Et donc 36%, hein, comme je viens de le dire, de la masse, hein, de cette calotte glaciaire. Alors, il y a une station de recherche aussi qui est située donc, au centre-sud du Groenland, qui s'appelle Summit Camp, pour peut-être nos auditeurs qui suivent ça de près. Et elle se trouve à une altitude de plus de 3200 mètres. Et donc, on y a enregistré pour la première fois pour un mois de septembre des températures supérieures à 0 degré. Avec un pic à 0,4 degrés, le record local se fixant à 2,2 degrés. Et ça, c'était au mois de juillet 2012 et 2017. Donc voilà, on observe même à ce niveau-là en fait des records de température, même si on est loin de nos 40 degrés qu'on a pu vivre en France. Alors les chercheurs, ils rapportent que la calotte glaciaire, elle a commencé à ruisseler le 2 septembre. Le maximum a été atteint le lendemain avec 12 milliards de tonnes de glace perdue. Voilà, là je parlais des 600 000 km², et bien 12 milliards oui, de tonnes de glace perdue. C'est le total le plus élevé de toute la saison de fonte 2022 et l'un des 10 jours de ruissellement les plus élevé depuis 1950. Donc c'est un événement de fonte qui est remarquable, hein, car à cette période de l'année, le rayonnement solaire n'est généralement plus assez fort pour donner naissance à de tels ruissellements. Mais cette année, en fait, une forte région de haute pression atmosphérique s'est installée à la limite sud-est du Groenland. Elle a attiré de l'air plus chaud, avec des températures qui ont parfois dépassé de 15%, celle plus classique de 2020 par exemple, vers le nord, le long de la côte ouest et de la baie de Baffin. Donc c'est une façon pour le réchauffement climatique, hein, de montrer, alors c'est pas une personne le réchauffement climatique, mais c'est vrai que là on en parle un peu comme si c'était le cas, de montrer comment il est capable d'augmenter non seulement l'intensité de la saison de fonte, mais aussi sa durée. Donc ça joue sur les différentes modalités. Évidemment, ce que les chercheurs craignent, c'est surtout les impacts de cette fonte tardive sur le niveau de la mer, car de tels événements pourraient bien accélérer la fonte au printemps prochain d'une part et ralentir l'infiltration de l'eau de fonte dans le manteau neigeux d'autre part. Et évidemment, ça aurait pour conséquence une élévation inattendue du niveau de la mer. Donc on observe aussi, parce que je sais qu'on en parle souvent dans le cadre du réchauffement climatique, de ces effets d'entraînement ou des fois des espèces de paliers qui seraient franchis. Et ben là, je trouve que c'est un bon exemple où on se rend compte qu'en fait, c'est pas juste le fait qu'il y ait un volume plus important, donc enfin que la glace fonde donc finalement plus tardivement et plus vite. C'est qu'en fait, ça a des gros impacts sur la suite, avec potentiellement cet effet justement qui pourrait être très important sur une élévation qui n'avait pas forcément été prévue du niveau de la mer. Donc les choses ne se passent pas comme ça de manière linéaire et constante. Il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas là-dessus.
Il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas et des boucles de rétroaction aussi qui fait que ça peut accélérer certains processus. Effectivement, on a vraiment l'impression d'être dans une spirale. Comme tu l'as dit, on en parle très souvent dans cette émission, mais c'est parce que c'est l'actualité qui nous l'impose. Ce n'est pas nous qui, de façon délibérée, choisissons les sujets. Les sujets s'imposent de
nous. On les voit passer, en effet, dans l'actualité. Il faut en parler. Oui.
Il faut en parler, bien évidemment. Tu parlais d'été, on va écouter un titre qui s'appelle « Éternel été » sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Éternel été, beau paix à jamais. Ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard,
l'effet du hasard,
ne le retiendra,
ne le retiendra,
parfois trop ardent,
parfois trop ardent,
l'éternel est. À jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Ezekiel Pelles avec Éternel été. C'était doux, je ne connaissais pas, nous ne connaissons pas. Nous avons apprécié ce titre très sympa pour votre déjeuner. Si vous êtes à table, bien évidemment, vous écoutez Graphite sur 94.9 FM et graphite.net en direct ou en différé, bien évidemment. On en a parlé dans cette émission, hein, je pense que ça devait être au printemps dernier, je ne sais plus, mais on arrive de plus en plus à la fin des mots de passe. Microsoft, Google, Apple, ils se sont accordés pour mettre fin aux mots de passe et le remplacer par une solution universelle comme un PIN, bien évidemment, ou des capteurs biométriques présents sur les appareils. L'empreinte digitale, la reconnaissance faciale. Eh bien, Apple a été le premier à dégainer en intégrant cette capacité avec le déploiement de l'iOS 16. Je suis en train de chercher ce que veut dire l'iOS. On appelle ça le... C'est pas ça va m'en venir, le mot m'échappe, c'est le système d'exploitation, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'Apple. Et donc ça a été déployé sur les téléphones, les iPhones, et puis après ça va être déployé sur les ordinateurs, les Mac, et notamment le macOS Ventura. Chez Apple, le procédé qui sera implanté s'appelle Passkey, donc mot de passe hein, à peu près, hein, clé de passage, Passkey,
oui,
quelque part. Et ce nouveau sésame pourra vous connecter facilement aux applications off-service web et même créer de nouveaux comptes sans avoir généré bien sûr des mots de passe complexes et le mémoriser. Autrement dit, c'est le début de la fin des mots de passe et finalement peut-être aussi celle des indispensables gestionnaires des mots de passe. Et puis quand même, au bout d'un moment, on n'en pouvait plus de ces mots de passe avec plus de 8 caractères, une majuscule, une minuscule, des mots compliqués, des symboles spéciaux. Enfin, ça devenait ingérable bien évidemment. Ou alors on prenait toujours le même partout et dès qu'il y en avait un qui était découvert partout. Tout ça, ce sont les gestionnaires aussi de mots de passe qui, du coup, vont disparaître au fur et à mesure. Et le fameux sésame, il va être remplacé par une paire de clés de chiffrement uniques qui seront synchronisées sur le trousseau iCloud. Donc là, on est également dans un système qui va permettre de pouvoir gérer à la fois, enfin pour ceux qui en sont équipés bien évidemment, le téléphone, la tablette, l'ordinateur par exemple, les montres connectées. Et si vous possédez déjà un compte avec des identifiants pour un service ou une application, eh bien, il faudra d'abord vous connecter avec ces fameux identifiants passés par le trousseau iCloud. Ce n'est qu'à partir de ce moment où vous pourrez utiliser le fameux passkey pour le remplacer. En revanche, si vous créez un nouveau compte d'utilisateur, eh bien vous pourrez générer directement ce fameux passkey. Plus d'histoires de mots de passe qui vont être quand même, on se souvient tous d'avoir commencé par le 1, 2, 3, 4 comme mot de passe, et puis plus ça allait, plus on était obligé de rajouter des chiffres, donc on allait jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais le principe va rester le même, hein, c'est-à-dire que le passkey repose sur le protocole FIDO qui a été mis au point par l'alliance issue de l'accord entre les géants de la tech, notamment Apple, Microsoft et Google. Donc, ça ne sera pas propre à la marque, hein, on est bien sur quelque chose qui va être de l'ordre du consortium, on va dire, et du coup, ça pourra fonctionner pour les autres services, comme pour Meta, hein, la maison mère de Facebook, comme pour Amazon, par exemple, nous dit-on. Et donc, du coup, vous avez pu mettre à jour votre téléphone iPhone il y a quelques jours, si c'était le cas, et donc vous allez pouvoir justement mettre en place cette méthode d'authentification pour générer le passkey. C'est un peu une révolution. Et effectivement, on a eu plusieurs articles dans cette émission depuis 2 ans, je crois, où quand j'ai évoqué ce sujet-là à l'antenne, moi-même, je n'y croyais pas, en fait. Alors, on voyait très bien le système biométrique, oui, effectivement, mais le déployer sur autant d'éléments, ça mettait en place quand même des choses qui, à l'époque, qu'on pouvait considérer comme assez complexe, parce que c'était quand même une volumétrie de données assez importante. Et finalement, on voit très bien qu'on va pouvoir gérer tout ça et que la technologie le permet bien évidemment. Donc voilà, c'est mis en place par Apple, mais ça le sera bientôt sur évidemment tous les téléphones, et ça va être généralisé parce que Microsoft et Google qui sont avec derrière, ça veut dire que tout le monde est concerné bien évidemment. Tout ça, toutes ces nouvelles technologies n'empêchent pas les bébés de pleurer en fait. Et ils ont raison, les bébés, de pleurer, parce qu'on n'en peut plus de ces nouvelles technologies.
Bah oui, parce que là, moi, ça m'intriguait, du coup, je faisais des recherches complémentaires. Et non, et de me dire que ça y est, il y a des gens qui l'installent en fait, alors que il y en a d'autres qui n'ont pas la bonne, enfin pas du tout la bonne mise à jour, qui sont complètement dans un autre temps avec des téléphones avec un clavier. Enfin.
Non, mais ça aussi, tu abordes un autre sujet qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que on parle beaucoup de rupture. Il y a une rupture technologique aussi, enfin, je veux dire, à la fois dans la maîtrise de ces nouveaux éléments, parce que effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde, et dans les capacités techniques des appareils que l'on a. C'est-à-dire que je ne rappellerai pas le prix du nouvel iPhone qui a été dévoilé il y a 15 jours, 3 semaines.
Ne nous fais pas cet affront, voilà, en effet.
Effectivement, donc il y a un moment, la technologie avance et c'est formidable, c'est extraordinaire ce que l'on est en train de vivre.
Après, mais il va laisser de côté certaines personnes.
À nous de suivre la technologie, et là c'est quand même pas simple, c'est pas à la portée de tout le monde, d'un point de vue financier, d'un point de vue aussi aptitude à maîtriser ces sujets-là. Évidemment, t'as entièrement raison.
Ouais. Mais par contre, ta transition était fabuleuse.
Et, oui, parce que les bébés,
et je ne voulais pas l'interrompre.
Les bébés qui pleurent parce qu'ils ont des parents qui n'arrivent pas à mettre leur mot de passe pour pouvoir écouter leur musique douce, ben c'est pour ça qu'ils pleurent.
Évidemment.
Mais
évidemment.
Comment on fait alors ?
Alors comment on fait ? Oui, et en plus comment on fait visiblement, puisque maintenant il existerait une méthode scientifique pour endormir un bébé qui pleure. C'est ce que nous relate Science et Avenir, et c'est des chercheurs qui se sont très sérieusement du coup penchés là-dessus. Et c'est pas un hasard si en fait j'ai choisi de parler de cette thématique aujourd'hui. C'est parce qu'on est, donc on l'a bien dit, le 8 octobre, et que c'est donc l'anniversaire de ma petite sœur qui est désormais maman et qui s'arrache les cheveux pour endormir son bébé.
Là, précisément, elle ne t'écoute pas parce qu'elle est en train de le faire.
Ouais, c'est
faire,
ça.
En fait, là.
Déjà. Plus, ça commence à midi, déjà, pour la sieste. Et en effet, oui,
déjeuner,
c'est ça.
Là. Non, elle a fini, peut-être. Oh, bah non.
On ne sait pas. Non, peut-être pas encore. Ça va bientôt être l'heure de la sieste. Donc, ça risque. En tout cas, la problématique va se poser assez rapidement.
Il est 12h37 sur l'antenne de Graphite. Alors,
et
fatalement.
Et comme je suis sympa, c'est mon cadeau d'anniversaire. Je lui donne la méthode clé en main.
Alors, une méthode scientifique.
Exactement. Et on va en pouvoir en redébattre un peu plus tard quand j'aurai expliqué de quoi il s'agit, parce que justement, je trouve qu'il y a des réflexions dans cet article qui est un petit peu long, un petit peu détaillé, mais qui sont assez intéressantes. Alors, évidemment, là, j'allais dire, je pense que de nombreuses personnes, et donc tous les parents, se sentent concernés par déjà le fait d'avoir du mal à endormir son enfant, le fait qu'il ne dorme pas quand nous, on est épuisé, quand on en aurait besoin, ainsi de suite. Et aussi, ils ont certainement vécu ce réveil brusque au moment où on pose du coup son bébé sur le lit, des cris récurrents, voilà, hein, tous les parents se sont déjà retrouvés désemparés face à un nourrisson en pleurs. Et j'allais dire peut-être même les non-parents qui doivent les garder parfois. Alors, un groupe de scientifiques qui visiblement avait vraiment envie d'aider les gens, parce qu'il y avait vraiment une composante d'altruisme peut-être, oui, peut-être très concernés eux-mêmes, propose, et c'est ça qui est assez déroutant, on va essayer de le détailler, hein, une stratégie simple pour apaiser, rendormir et faire rester dans son berceau le bébé. Donc, peut-être une solution pour que tous ses parents soufflent enfin. C'est une étude italo-japonaise qui propose une procédure en deux étapes pour calmer et endormir un bébé qui pleure. Et du coup, c'est très sérieux puisque ça a été publié dans la revue Current Biology. Et ça impliquait en fait voilà, seulement des mères, mais finalement, et c'est là où je l'élargis aux personnes qui peuvent des fois jouer la nounou, hein, c'est valable aussi pour tout autre familier du bébé. Il faut quand même que le bébé nous connaisse un peu, mais ça ouvre des perspectives d'espoir. Alors je ne vous dévoile pas tout de suite les deux étapes, non, le suspense. Mais je veux d'abord commencer en fait par relater l'étude et savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés donc à cette conclusion. Ils se sont servis déjà de précédentes observations réalisées sur des mammifères altriciaux ou nidicoles, c'est-à-dire dont les petits naissent incapables de se déplacer et de se nourrir seuls. Par exemple, on peut citer le chien, la souris, le singe. Hein. À l'inverse, justement, par exemple, des cervidés, etc., ou des chevaux, où là, on a des petits qui sont tout de suite capables de fuir hein, s'il y a des prédateurs. Donc, chez ces animaux, ils décrivent un apaisement physiologique et comportemental lors du portage, phénomène qu'ils nomment « réponse au transport ». Alors, afin de pouvoir tester ces modalités chez l'humain, les chercheurs ont utilisé des caméras et des moniteurs de la fréquence cardiaque pour surveiller les réactions de 21 bébés âgés de 0 à 7 mois, accompagnés donc de leur mère. Pour consoler son bébé en pleurs, 4 stratégies étaient testées par les mères. Porter l'enfant en marchant, le porter assise, le pousser dans une poussette en mouvement ou un berceau à bascule, ou le poser dans un lit immobile. Seul le mouvement, en particulier par portage, a eu un effet apaisant sur les bébés et sur leur rythme cardiaque. Alors ça, c'est vrai que sur le phénomène de portage, il y avait déjà eu des études, donc c'est pas forcément, j'allais dire, trop étonnant. Mais ils sont allés plus dans le détail, et donc dans les 30 premières secondes, justement, de portage, c'est là apparemment où il y a l'effet le plus apaisant. Ce sont des observations qui contredisent l'hypothèse générale selon laquelle le simple fait d'être tenu par la mère réduit la détresse du nourrisson. Puisque après donc 5 minutes de portage en marchant, 5 des 10 nourrissons, donc c'était 45% de l'échantillon, étaient endormis et aucun ne pleurait à la fin. Ça c'est ce qu'ont constaté donc les scientifiques. Ils conseillent donc de marcher sur un passage plat et dégagé et à un rythme régulier, de préférence sans arrêt ou virage brusque, car la fréquence cardiaque des bébés augmentait lorsque les mères se tournaient ou cessaient de marcher. Donc en fait, ça déjà, c'est la première phase avec les 5 minutes de portage. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment chronométré les choses. C'est-à-dire que les 5 minutes ne sont pas au hasard. On va voir cette histoire de timing justement sur la qualification de la deuxième phase qui est très importante.
Il faut juste avoir un grand appartement quand même.
Oui, alors... ou sinon, peut-être faire des...
Ça chez moi, tu as tout le temps un virage, étant donné que c'est petit.
Il faut que le virage ne soit pas brusque. Ah, oui. Mais tu peux faire, tu peux peut-être faire un arrondi, tu vois, sur un cercle un peu... Oui. Bah, il faut revoir comment sont agencés tes meubles. Voilà, il faut faire quelque chose. Après, si tu sais que tu peux dormir à la clé, je pense que tu peux être très, très motivé. Donc, une fois que le bébé est endormi ou pas loin de l'être, souvent, le premier réflexe, ça va être de poser le bébé dans son lit. Et ça, tout le monde le connaît, hein, c'est le moment où c'est quitte ou double. Parce qu'en fait, le fait que la mère allonge les nourrissons endormis dans un berceau, ça peut soit interrompre, soit approfondir le sommeil des nourrissons. Et c'est plus précisément au moment où le bébé se détache de sa mère que sa fréquence cardiaque augmente le plus, au point que 9 des 26 nourrissons endormis, donc c'était 35% de l'échantillon, se sont réveillés 20 secondes après avoir été couchés. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir expérimenté. Dès qu'on pose le bébé, on a l'impression qu'il se remet à pleurer et que tout est foutu et qu'il faut recommencer. Et bien justement, eux, ils sont allés dans le détail, ils l'ont expliqué. Il sent ce détachement, on imagine, et en tout cas c'est le moment où sa fréquence cardiaque augmente, donc après il se réveille. Alors comment faire dans ce cas pour coucher le bébé que les 5 minutes de marche ont réussi à apaiser ou endormir? Le suspense là, il est intenable. Eh bien il faut... Non mais parce que du coup ça donne envie de le tester. Moi la prochaine fois j'ai mon chronomètre, hein. J'ai mon chronomètre et je teste les phases. Il faut d'abord s'asseoir avec le bébé toujours dans les bras. Ça, c'est ce que nous disent les chercheurs. Car 13 des bébés restés endormis après avoir été posés, enfin, sur 13 des bébés restés endormis avoir été posés donc, dans leur berceau, 9 avaient été portés par leur mère, d'abord en marchant, puis toujours portés, mais la mère assise. Mais attention, il ne faut pas que la phase de portage assise soit trop brève, même si le bébé semble endormi. Puisque d'après les chercheurs, la clé, c'est d'attendre 5 à 8 minutes, le temps que son sommeil s'approfondisse avant de le poser. Cette fenêtre temporelle, en fait, elle correspond approximativement à la durée du premier stade du sommeil, environ 8 minutes chez les nourrissons de 4 à 5 mois. Donc en fait, il y a une vraie explication physiologique derrière. C'est pour ça que ils disent 5 à 8 minutes, mais après ils ont retenu 8 minutes, elles ne servent pas à rien. Donc la formule gagnante, du coup, c'est ça qu'ils ont, publié. Pour bon nombre de nourrissons, pour la majorité, alors on imagine hors autre problème ou s'il se passe quelque chose de particulier, s'ils ont des douleurs, etc. Mais pour un nourrisson en bonne santé, c'est porter un bébé en pleurs 5 minutes en marchant, puis 8 minutes assis pour permettre ensuite qu'il reste donc endormi dans son berceau. Et donc là, on a un témoignage intéressant d'une justement japonaise qui a dirigé les travaux, donc une des chercheuses, Kumi Kuroda. Elle nous dit, même en tant que mère de 4 enfants, donc elle avait un intérêt, c'est pourquoi elle a cherché les financements. Donc même en tant que mère de 4 enfants, j'ai été très surprise de voir ce résultat. Je pensais que le réveil des bébés pendant le coucher était lié à la façon dont ils étaient mis sur le lit, comme leur posture ou la douceur du mouvement. Et du coup, elle espère que ces données permettront de promouvoir une éducation parentale basée sur la science. Alors, moi, ça m'a fait réagir, en fait, cette phrase, parce que on a quand même, je trouve, souvent dans ce domaine-là, tendance à se référer aussi à notre intuition, à l'expérience. Alors, ça ne veut pas dire que l'expérience, elle ne relève d'aucun fait biologique à la base, mais c'est vrai que finalement, moi, la sensation que j'avais, c'est plus qu'on faisait confiance à notre intuition et puis qu'en fonction des nourrissons, il existait une grande diversité et qu'on essayait de trouver à chaque fois la méthodologie, finalement, qui le calmait le plus. Donc, il y en a des grandes méthodologies qui sont connues, tout comme, en effet, dans ce cas, le garder dans les bras, être en portage, on sait, mais sans que ça ait été quantifié après au niveau du temps et puis qu'on ait pu découper ça en phase. Donc, chacun, j'ai l'impression, chacune fait un peu à sa sauce et essaie de, en fonction après de l'enfant qui connaît très bien forcément, essaye de l'endormir. Et là, ce que je trouve assez fascinant, c'est que d'une part, on nous dirait que c'est quand même un peu universel. Alors, l'échantillon n'est pas très important, mais vu quand même l'étude, visiblement, en tout cas, les résultats étaient significatifs. Et surtout, c'est assez court, 5 minutes plus 8 minutes. C'est-à-dire qu'on part d'un enfant qui pleure, on ne part pas d'un enfant qui est déjà dans les bonnes dispositions pour se coucher. Donc, régler ça en moins d'un quart d'heure, je pense que ça ferait rêver de nombreuses personnes. Maintenant, c'est vrai que le commentaire particulier de dire « bah oui, il faudrait promouvoir une éducation parentale basée sur la science », je dirais que ça pose question, ça fait réfléchir. Et parce qu'on peut se dire, bah oui, enfin en même temps, est-ce qu'il n'y a pas non plus une part aussi d'intuition, de façon de faire en fonction des cultures, enfin une grande liberté vis-à-vis de ça?
C'est aussi mettre en place un protocole expérimental quand tu fais ça. Alors je prends le grand mot, mais tu fais ta propre expérience avec l'enfant que tu as et tu vas tester ça, c'est de la recherche scientifique.
Mais je pense que
c'est bizarre quand je dis ça.
Évidemment, mais comme tu ne le quantifies pas, tu n'arrives pas à...
Tu peux faire finalement, tu peux toi-même faire ta propre méthode efficace. Là, on nous donne une méthode qui fait ses preuves sur un nombre d'enfants. Donc, mais effectivement, chacun le teste, c'est de la recherche scientifique.
Mais je pense que personne n'avait encore réussi à donner comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un côté très...
Ouais. On nous donne l'explication.
Bien sûr, on nous la donne.
C'est pas juste ces 5 minutes ou ces 8 minutes, je sais plus ce que tu as dit.
Oui, oui.
On comprend.
On comprend parce que... Exactement.
Enfin, c'est... Ok, ça c'est intéressant. Mm. Ça, effectivement, on n'a pas les éléments. Donc... La recette, c'est...
Donc, c'est d'abord 5 minutes. Donc, le bébé, portage. Quand il pleure, mais bon, ça doit pouvoir se tester sur des bébés qui ne pleurent pas et qu'on a envie d'endormir plus rapidement. 5 minutes de... Voilà, 5 minutes de portage. Non, mais du coup, c'est à tester. Je pense qu'on pourra tester tous et faites-nous vos retours, du coup, après, en écrivant à l'émission.
Mais non, mais oui, c'est vrai que ça serait intéressant.
Donc 5 minutes de portage, en marchant, on l'a bien dit, hein, une cadence régulière, pas de virage brusque, quelque chose d'assez linéaire, voilà justement.
Dans votre couloir.
Voilà, en faisant des allers-retours. Et ensuite, 5 à 8 minutes, on garde le portage, mais on s'assoit.
Et
ensuite, du coup, on peut le mettre dans le berceau. Ça évite ce phénomène de vouloir le mettre en... D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on fait. Hein. On veut le mettre en étant debout. Et où là, soit il est assez endormi et ça va passer, soit en effet ça le réveille. Le fait de se détacher du coup de la personne qui l'a porté va forcément du coup le réveiller. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que du coup l'étude, elle se penche après justement sur les histoires de bébés secoués. Parce qu'on sait qu'environ 20 à 30% des nourrissons pleurent excessivement et présentent des troubles du sommeil sans raison apparente. C'est-à-dire que, voilà, moi, je l'ai dit à un moment, il y en a qui peuvent avoir des problèmes de reflux, des choses voilà, un peu compliquées digestivement, surtout dans les premiers temps. Et là, en fait, il y en a quand même énormément qui pleurent comme ça de manière très forte, et donc forcément que ça a un impact sur les adultes de leur entourage, sans raison apparente. Et ça provoque un stress parental. Maintenant, ça, on en parle, c'est reconnu. Et ça peut même donc déclencher des actes impulsifs de maltraitance dans un petit nombre de cas. Mais donc, ces actes impulsifs, ils peuvent avoir des conséquences très graves, comme le syndrome du bébé secoué, donc on l'appelle aussi le SBS, qui est la cause la plus fréquente de décès traumatiques chez les nourrissons dans les pays à haut revenu. Oui, parce que dans les pays à bas revenu, il y a tellement d'autres causes que ça ne peut pas être en tête. Mais les formes non létales du SBS, elles sont quand même extrêmement graves. Donc même si le bébé ne décède pas, il y a une morbidité sévère à long terme, telles que des troubles neurodéveloppementaux, hein, j'en cite quelques-uns, épilepsie, déficience motrice et visuelle, troubles du langage, déficience intellectuelle et anomalie du comportement. Et ça entraîne un handicap à vie. On a également des chiffres. On sait qu'en raison des confinements liés à la pandémie du Covid-19, l'incidence de SBS est restée stable en 2020, puis a doublé en 2021. Imagine des gens, on sait que les gens ils étaient à bout à ce moment-là, que vraiment il y avait une usure, donc ça a joué. Et sa mortalité au SBS, elle a été multipliée par 9 en région Île-de-France. C'est ce que révèle l'étude. Parce que voilà, tu évoquais le fait d'avoir des petits appartements et d'être enfermé des fois dans des endroits avec beaucoup de des environnements très contraignants, et ça peut participer. C'est vrai que quand il n'y a pas d'échappatoire, on ne peut pas faire de pause. Donc on ne peut pas à un moment se dire, voilà, je fais garder l'enfant à quelqu'un d'autre, je me fais relayer, voilà, je passe le relais, et comme ça, moi, je peux souffler et je peux me reposer. Mais je trouvais, en fait, sur un sujet où on entend des fois tout et n'importe quoi, parce que tout le monde y va de son petit conseil et de sa petite expérience, je trouvais ça intéressant quand même, cette phrase de « oui, une éducation parentale, ça devrait quand même être basé beaucoup plus sur la science enfin, ». En tout cas, ça nous rappelle que les bébés, les enfants ont des besoins, qui sont aussi des besoins physiologiques, et forcément d'investiguer ça, ça nous permet d'être plus en adéquation et peut-être du coup de répondre plus vite à ces besoins-là, et nous de pouvoir faire des nuits plus longues. Tout le monde est gagnant au final.
Eh bien, écoutez, vous testez cette méthode scientifique et vous nous faites vos retours sur la page Facebook de Graphite. Tu connais le homard ? Eh bien, je te propose cette fois le super homard.
Allons-y.
To die, a normal life's just not for me, and I've been dreaming that I get so far away from politics and love. So here I am alone, my only friend is big and white. If I turn my back a moment, or if I tell a lie,
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
C'était le Super Homer avec North Pole. C'était une musique qui permet aussi d'endormir les bébés.
Peut-être, oui.
C'était doux. Hein.
Elle est extrêmement agréable aussi, très douce. Là, on était dans cette ambiance playlist, musicale aujourd'hui.
La playlist de graphite est vraiment intéressante aujourd'hui. Je n'y suis pour rien. Je ne prends
aucun. Tu es pourtant notre DJ.
je choisis au pur hasard dans une playlist qui nous est fournie. Effectivement, là, on a découvert deux titres vraiment très sympas qu'on n'a jamais écoutés à l'antenne. Enfin, en tout cas, dans l'émission Biotine, parce que des fois, on retrouve des choses. Mais là, voilà, ça a été renouvelé et c'est vraiment intéressant. Vous écoutez Biotine. Tous les samedis, entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique, ce qui nous permet justement d'avoir un petit peu une vision du monde, car on parle de toute l'actualité scientifique, médicale, on va dire plutôt technologique, les énergies, les nouvelles, enfin l'intelligence artificielle, c'est ce que l'on va évoquer à l'instant, et puis l'espace, bien évidemment. Tous ces sujets-là nous concernent, et donc du coup, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde. Et effectivement, on se base, c'est un peu une revue de presse de l'actualité, dans le sens où on va se baser sur les communiqués des laboratoires ou les articles qui sont relayés dans les grandes revues dont on ne va pas citer, parce qu'on les cite assez souvent dans cette émission. Ce qui est toujours intéressant également au niveau de tous ces articles de vulgarisation, il y a beaucoup de sites qui existent. Moi, je cite souvent Futura, parce que je trouve que c'est un site vraiment bien fait. Il a été d'ailleurs rénové, sa plateforme a été rénovée il y a quelques... Enfin, c'était courant septembre. Et du coup, vraiment, ça permet d'aborder plein de sujets d'une façon vraiment agréable, parce que très abordable. Tous ces sites-là, justement, vous permettent, en cours d'année, de pouvoir vous informer sur un petit peu ce qui se passe dans le monde au niveau scientifique au sens large, parce qu'on sait très bien que l'on pâtit d'un véritable manque de culture scientifique. Nous avons démarré depuis hier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui, le vendredi 7, la Fête de la Science, qui est donc l'événement national, francophone même d'ailleurs maintenant, qui permet pendant une bonne semaine au centre, au lieu, là où se fait la science. Ça peut être des laboratoires, enfin des universités, des centres de recherche, ça peut être également des musées scientifiques. Ils sont ouverts pour vous accueillir, vous public, vous citoyens, et justement ça vous permet d'avoir une rencontre directe avec la communauté scientifique, échange, questionnement, expérience, manipulation, expérimentation, et tout ça dans une ambiance festive, parce qu'on est quand même dans la fête de la science, hein, c'est pas dans le colloque hyper pénible de la science, c'est la fête de la science, donc on est bien dans un contexte assez convivial et qui fonctionne très très bien pour les jeunes et les moins jeunes, bien évidemment. Donc où que vous soyez, parce que là, vous nous écoutez sur Graphite un petit peu partout dans le monde, eh bien, il y a, je pense, une fête de la science pas très loin. Donc, renseignez-vous pour que vous puissiez visiter ces lieux. La fête de la science, elle est partie notamment d'ici. Nous sommes à Compiègne, notamment à l'Université de technologie de Compiègne. J'ai un gros trou de mémoire. Je crois que c'était 1991. Il me semble que c'était le tout début de la fête de la science. Et donc, tous les ans, l'UTC ouvre ses portes et accueille le public au sein même de ses laboratoires. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça permet de rentrer dans ces lieux qui sont parfois un petit peu protégés, inaccessibles. Et l'UTC s'associe avec l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale, qui est juste à côté, qui est une école d'ingénieurs en chimie. Et l'ESCOM propose aussi des sujets totalement intéressants au niveau chimie, parce que la chimie et la vulgarisation, c'est sûrement l'un des domaines qui s'y prête le mieux. Je pense que c'est totalement vraiment intéressant de comprendre des sujets chimiques, parce que c'est visuellement beau à voir et donc du coup très abordable. Donc il y a un programme de la fête de la science à partir de jeudi prochain jusqu'au dimanche, donc pendant 4 jours l'UTC ouvre ses portes et vous propose d'ailleurs de vous accueillir et de participer aux expériences scientifiques qui vous sont proposées. C'est vraiment pour tous les niveaux, donc n'ayez aucune crainte. Au contraire, vous passerez un bon moment. Et comme de coutume, depuis plusieurs années maintenant, je n'ai pas compté combien de fois nous avons présenté l'émission Biotine en direct de la Fête de la Science. Et ça, c'est toujours un moment très génial pour nous. Pendant 2 heures, nous sommes en direct, en plein cœur de cet événement. Donc il y a vraiment le public qui rentre, qui passe à côté. Il y a une ambiance, un fond sonore qui est vraiment très sympa. Et à l'antenne, pendant 2 heures, eh bien, on va faire venir les chercheurs qui vont nous expliquer Alors, ils vont nous expliquer ce qu'il y a sur le stand. Et quelque part, ce qu'ils présentent sur le stand, c'est une façon aussi de savoir sur quoi ils vont travailler, sur quoi ils travaillent, quel domaine de recherche, quels sont les sujets qu'ils évoquent. Et ici, à l'UTC, à l'ESCOM, c'est quand même des sujets très actuels en termes de drones, en termes de biomédical, en termes également d'urbanisme, de développement durable, d'écologie, d'énergie, de chimie et de génie des procédés, d'industrie. Il y a énormément de choses que vous pouvez évoquer. Donc à partir de 14h, c'est une émission en direct sur l'antenne de Graphite, émission en direct de la Fête de la Science, et ça sera avec Peggy. Je suis heureux de retrouver. Oui, Carole, je te fais une infidélité.
J'ai l'habitude.
C'est un samedi par an. J'ai le droit. C'est mon samedi avec Peggy pour la Fête de la Science. Je parlais d'intelligence artificielle juste avant de finir cette émission. La ville de Bad Hersfeld souhaite laisser une intelligence artificielle contrôler son réseau de feux de circulation en cas d'urgence. Le but, en fait, c'est de permettre aux services concernés de circuler le plus vite possible et de se rendre sur des lieux d'accident en moins de 10 minutes. Et donc, dans un premier temps, l'idée est qu'une intelligence artificielle puisse à la fois calculer et recommander le trajet le plus rapide, donc on va être dans du Waze, mais également d'intervenir directement sur le trafic en jouant sur les feux de circulation. L'idée, en fait, c'est de donner la priorité aux pompiers, par exemple. Et pour ce faire, il y a une multitude de données sur le trafic qui vont être analysées en temps réel afin de pouvoir aider les secours à atteindre leur but le plus rapidement possible, le tout en jouant sur la gestion des feux de signalisation présents sur leur parcours. Le risque est cependant de créer des embouteillages, ce que les algorithmes ne manqueront pas évidemment d'éviter si possible, bien sûr. Alors pour y arriver, il y a un système central de contrôle des feux de circulation qui a dû être installé. La ville a lancé une période d'essai avec les pompiers afin de mesurer l'efficacité de ce projet avant de l'étendre éventuellement à d'autres services. À noter que cette initiative, elle est soutenue carrément au niveau du gouvernement du Land de Hesse en Allemagne, qui espère que ce projet va faire un petit peu tache d'huile et puis va convaincre d'autres municipalités d'en faire autant. Alors, il s'agit là d'une nouvelle étape pour une ville qui est relativement impliquée dans les nouvelles technologies. C'est donc la ville de Bad Hersfeld. Les habitants, ils ont déjà la possibilité de contrôler via une application mobile l'éclairage de certaines rues. On sait que ça commence à faire un peu polémique, ou en tout cas, on en parle actuellement en France. Là, c'est eux qui ont la main là-dessus. C'est peut-être finalement une bonne solution, parce que pourquoi toujours allumer certaines rues, effectivement ? Pourquoi aussi toujours les éteindre ? Parce que voilà, ça peut être au niveau sécurité un petit peu difficile pour certaines personnes de rentrer dans le noir. Et bien là, il y aura possibilité de... Enfin, c'est ce qu'ils mettent déjà en place dans cette ville, de pouvoir contrôler l'éclairage des rues. Dans cet article de Futura Science, on nous dit qu'en France, l'idée de contrôler le trafic via une intelligence artificielle, elle avait déjà été évoquée, je ne m'en souviens pas, par le politicien, mathématicien Cédric Villani, qui avait été candidat il y a 2 ans, candidat malheureux à la ville de Paris. J'avais oublié ça. En fait, c'est l'article qui me rappelle ça. C'est vrai, il était candidat. Il avait proposé cette idée, selon lui, qui était de mieux fluidifier la circulation automobile dans la capitale à l'aide d'une intelligence artificielle gérant les feux tricolores en temps réel. Un projet ambitieux, bon, qui n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que ce n'est pas lui qui est passé. Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant et assez intelligent de voir cela et de voir le contrôle, effectivement, de toute la circulation par le jeu. Enfin, dire, tu as un Waze d'à côté et c'est comme si tu avais la possibilité d'appuyer sur le bouton feu vert également de l'autre. Et c'est une intelligence artificielle qui gère ça. C'est assez, je sais pas, à la fois assez bluffant. Technologiquement, c'est quand même fantastique. Voilà, on entre, je ne sais pas, dans une époque qui...
Une nouvelle époque, une nouvelle ère certainement.
Qui n'est pas facile à appréhender, je trouve, mais bon, elle est assez intéressante. À voir. Mais j'imagine dans une ville comme Paris, comment ça, je sais pas.
C'est-à-dire quand on voit que dans une ville comme Paris, il y a des agents à un moment qui sont obligés d'intervenir malgré des feux déjà de circulation, parce que la circulation ne peut plus se faire puisque les gens ne pouvant plus passer, le trafic étant tellement bondé, se retrouvent en fait à bloquer un carrefour et en fait il faut des humains pour débloquer le carrefour. Donc, mais dans un pays en plus comme l'Allemagne,
c'est ça,
je ne fais pas d'erreur. Peut-être avec plus de discipline au niveau des automobilistes, ça peut être intéressant de voir comment ça permet de réguler les choses.
Je suis très curieux de voir, on essaiera de suivre l'avancée de ce projet qui est en train de se déployer dans cette ville de Bad Hersfeld en Allemagne. C'est la fin de cette émission. Merci, Carole. Alors, bon, tu as compris que samedi prochain, je te fais une infidélité.
J'ai bien compris.
Je vous rappelle l'émission en direct à 14h de la Fête de la Science. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Biotine. Et je ne doute pas que tu aies encore plein de sujets à nous proposer lors de cette émission dans 15 jours.
Et oui, vous ne serez pas déçus.
Jamais. Avec Carole, jamais. Merci, Carole. Rendez-vous.
À bientôt.
Samedi prochain, 14h pour nous. À bientôt. Au revoir.